Bonjour, dimanche, les Françaises et les Français retourneront aux urnes pour élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Un deuxième tour aura lieu le dimanche 7 juillet entre les candidates et les candidats en lice. C'est aujourd'hui notre dernier débat du premier tour sur l'ensemble des circonscriptions de la Sarthe. Nous sommes ensemble pour échanger sur les programmes et sur les enjeux de la constitution de la prochaine Assemblée nationale dissoute par le président de la République au soir des résultats des élections européennes. Quatre questions se posent. Est-ce que la majorité présidentielle conservera ses députés pour soutenir la continuité politique du président de la République ? Est-ce que le Rassemblement national confirmera sa victoire aux élections européennes avec l'ambition de voir arriver sa tête de liste au poste de Premier ministre ? Est-ce que le nouveau Front populaire, réunissant tous les partis de gauche, parviendra à devenir une nouvelle alternative politique ? Est-ce que les Républicains retrouveront autant de sièges après le séisme du choix de leur président de faire alliance avec le Rassemblement national à l'encontre de la position de ses dirigeants qui n'y étaient pas favorables. Rappelons que les députés se font l'écho des préoccupations qui touchent leur circonscription auprès de l'Assemblée nationale. En liaison avec les élus locaux, les députés se préoccupent de la situation économique, sociale et plus globalement de toute situation qui concerne leur circonscription. Ils ont un rôle particulièrement important puisque ce sont les députés qui votent les lois. Enfin, les députés contrôlent l'action du gouvernement. Ils peuvent interroger directement les ministres, soit par des questions écrites, soit par des questions orales, lors des séances à l'Assemblée nationale. Nous recevons aujourd'hui 4 des 5 candidates et candidats de la 5e circonscription qui concerne les cantons de Bâlon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédoué, Mamers, Le Mans, Nord-Campagne, Le Mans, Norville et Marolles-les-Braux. Christophe Rouillon, candidat socialiste investi par le nouveau Front populaire. Pierre Vaugarny, candidat du Rassemblement national. Cécile Belle de Gessé, candidate pour Debout la France. Et Olivier Lacave, suppléant de Karine Fouquet, candidate pour Lutte ouvrière. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Est aussi candidat sur cette 5e circonscription, Jean-Carl Grolier, le député sortant Ensemble pour la majorité présidentielle, qui n'a pas donné suite à notre invitation en raison d'une présence sur le terrain. Première question à chacune et chacun d'entre vous, après une brève présentation de votre parcours pour les électrices et que les électrices et les électeurs puissent mieux vous connaître, pourquoi êtes-vous candidat sur cette 5e circonscription et le tirage au sort a désigné pour commencer Pierre Vaugarny, candidat du Rassemblement national.
Bonjour à toutes et tous. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative, à mon avis, beaucoup trop rare, parce qu'on sait que on vit des moments extrêmement importants et le débat et l'échange, en tout cas, ne peut que favoriser la vie démocratique. Me présenter très brièvement, je suis agriculteur bio à Courcebeu. Je suis né sur le territoire il y a 55 ans. Je suis installé avec deux de mes enfants sur l'exploitation familiale. J'ai une petite particularité puisque en fait, les responsabilités, je suis né dedans puisque mon père a été maire de Courcebeu pendant 35 ans. Moi-même, l'engagement, j'ai pu le connaître au travers de mon implication forte dans la défense du monde agricole. Et au fur et à mesure des responsabilités, j'ai été secrétaire général de la Fédération nationale bovine. Et à ce titre, j'ai représenté les producteurs de viande bovine au sein de l'Union européenne, dans les différents débats, notamment sur les échanges internationaux. Je voulais, en préambule, me permettre de faire une petite aparté. D'abord, remercier l'ensemble des candidats qui sont présents et aussi regretter l'absence de M. Grelier, qui représente la majorité présidentielle. Et Dieu sait qu'à l'heure où on vit, beaucoup de personnes se posent des questions. Cette absence, en tout cas, je la regrette, je la déplore. Et en parlant d'absence, c'est peut-être d'ailleurs un mot qui pourrait coller aux travaux du député sortant, puisque lors de la mandature, il a aussi brillé par son absence à l'Assemblée nationale et aussi sur le terrain. Nous rencontrons des gens qui auraient aussi aimé avoir des relais, que ce soit dans le Nord-Sarthe ou ailleurs, avoir des relais pour pouvoir porter leurs difficultés au quotidien.
Alors pourquoi êtes-vous candidat, Pierre Vaugarny, pour le Rassemblement national ?
Vous savez, je suis candidat. On a depuis 30-40 ans, vous savez, voilà, on a eu une succession de politiques ou d'alternance avec quelque part des hommes et des femmes professionnels de la politique, des gens qui sont qui vivent de cette de la politique avec parfois parfois des changements ou des changements d'orientation. Et je pense à Monsieur Grelier, je pense à Monsieur Rouillon, voilà, qui est aussi parfois ont une souplesse d'esprit qui s'adapte.
Je suis adhérent au Parti Socialiste depuis l'âge de 15 ans.
Qui peuvent faire preuve, on va dire, de souplesse d'esprit. Je sais que les gens ont besoin de tourner une page et d'autres choses. Je suis quelqu'un de la vraie vie. Je suis quelqu'un qui travaille avec ses enfants et qui, je pense, peut présenter une alternance et représenter les gens dans leur quotidien.
Christophe Rouillon, pourquoi êtes-vous à nouveau candidat pour la 5e circonscription afin de devenir le député de cette circonscription ?
D'abord, merci. Effectivement, félicitations à Radio Alpa pour organiser un tel débat. Et d'ailleurs, c'est le seul débat de la campagne. Et je regrette. Dans le passé, nous avions eu d'autres débats, y compris sur les chaînes de télévision. Et là, je trouve que c'est un recul démocratique qui est dû aussi à la rapidité de cette élection et au fait à la conséquence de la dissolution du président de la République, qui est un acte totalement insensé, extrêmement dangereux pour nos institutions, pour notre pays, et qui était un déni de démocratie. On l'a bien vu dans l'organisation des débats qui peuvent avoir lieu sur le terrain, et effectivement le fait que le député sortant, qui était un député de la majorité présidentielle de La République En Marche, ne soit pas présent aujourd'hui est une preuve supplémentaire de ce mépris aussi pour les citoyens et pour les auditeurs. Et voilà, je pense que nous devons tirer les conclusions. Alors pourquoi je suis candidat ? Je vais le dire de façon très claire. Je suis candidat parce qu'il y a un vrai risque que cette circonscription tombe dans les mains de l'extrême droite. C'est une circonscription républicaine de tradition, à la fois des hommes de Concorde comme Pierre Gachet, qui était un député qui n'a pas été oublié de Marolles-les-Baux, Jean-Claude Boulard, et puis je ne remonterai pas jusque à Joseph Caillaux, qui était le père de l'impôt sur le revenu de ma mère, c'est qui est aussi un homme de Concorde et de paix, qui a en particulier une politique d'amitié avec l'Allemagne. Et là, aujourd'hui, il y a une vraie menace. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que lors des dernières élections européennes, il y a eu un vote sanction contre le président de la République qui n'écoute pas et qui mène une politique d'agrandissement des inégalités. Et il y a eu un vote important pour le Rassemblement National, que l'on doit continuer à appeler Front National, à mon sens. Et pour ces raisons, je pense qu'il était nécessaire d'offrir une troisième piste, une alternative. Et c'est pourquoi moi qui suis un socialiste de toujours, là je me suis permis d'interrompre le candidat du Rassemblement National, dont je ne connais pas très bien le parcours politique et anciennement, mais moi je suis resté toujours fidèle à mes convictions socialistes, mais aussi socialiste modéré, social-démocrate, pro-européen. Je n'ai pas changé de parti pour gagner les élections. Il me semble qu'au contenu de mon expérience de maire, de la réputation que j'ai sur la gestion, la résolution de problèmes sur la santé, la sécurité, j'étais le mieux placé pour pouvoir faire face aux candidats d'extrême droite qui portera la candidature de Jordan Bardella, qui est un homme expérimenté, qui ne dit pas la vérité aux Français et qui nous conduirait à l'aventure et au chaos.
Merci Christophe Rouillon. Simplement pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux médias mobilisés sur les débats, je voudrais prendre quand même la défense de notre chaîne locale LMTV Sarthe. Quelquefois, il s'agit aussi de moyens humains et je pense que, connaissant bien la rédaction de LMTV, c'est vraiment pas un désintérêt pour ces élections. D'ailleurs, ils seront en direct, je crois, dimanche pour le premier tour, ce qui n'est pas possible pour nous, par exemple.
On a été invités, mais c'est vrai qu'ils ont été pris par le tronc à la suite de cette dissolution insensée qui met en danger la France et l'Europe.
Je me permets juste une toute petite réaction au propos de monsieur du candidat de la NUPES.
Non. Alors c'est
non,
front,
non,
c'est
non,
front,
non. C'est le Front Populaire. Excusez-moi, bon, voilà.
C'est le Front Populaire, ce n'est pas la NUPES.
On change l'habillage, mais bon, voilà, les choses, peu importe. Je pense qu'on est là pour sortir des éléments de langage. Vous savez, moi je suis un souverainiste. Voilà, je suis quelqu'un qui aime son pays comme 40% des Français aujourd'hui. Cette insulte, ce manque de respect vis-à-vis d'un nombre très important de nos concitoyens me semble, en tout cas moi, me choque. Non pas pour moi, mais aussi pour l'ensemble. Cette thématique, et c'est toujours cette caricature qui est portée par les candidats de gauche, est pour le moins gênant.
S'il vous plaît, Pierre Vaugarny.
J'ai pas vu où était l'insulte. Simplement, on a effectivement des gens de bonne foi qui ont des souffrances, des inquiétudes, en particulier dans le monde rural, mais aussi également en ville, qui souffrent des problèmes de pouvoir d'achat, de services publics, etc., mais qui se font manipuler par Jordan Bardella, qui est en réalité quelqu'un qui n'a jamais travaillé, pour le coup, lui qui est un vrai professionnel de la politique, qui a eu la chance d'être de la famille de Châtillon, etc., qui sont des gens vraiment d'extrême droite, et qui a pu, à 22 ans, être attaché parlementaire, après avoir reçu pas mal de dons de son papa, ensuite devenir député européen, et aujourd'hui de prétendre, sans aucune expérience ni professionnelle, ni universitaire, à être le Premier ministre de la France. Et là, je pense qu'il avait véritablement, effectivement, je maintiens, une forme d'imposteur et de manipulation de la population.
À droite et à gauche.
Cécile Bell, voilà, c'est pas un débat à deux, c'est, on va quand même laisser la parole, si vous voulez bien, aux autres candidats. Cécile Bell de GC, vous êtes candidate pour Debout la France. Une petite présentation, même si on vous connaît bien en Sarthe, et pourquoi oui. êtes-vous surtout et à nouveau candidate
Je voudrais d'abord aussi vous remercier, mais ça ne m'étonne pas que vous, vous nous ayez invités. Moi, je voudrais quand même me présenter, parce que je représente vraiment la française, le français qui connaît les préoccupations du quotidien. Pourquoi ? Je suis mariée, j'ai 5 enfants et j'ai 15 petits-enfants. Et j'ai pu, du coup, appréhender tous les problèmes de tous les âges de la vie. Et je les ai en permanence. Je suis économiste de formation. J'ai été collaboratrice d'un avocat, d'un expert comptable. J'ai travaillé. Cela ne m'a pas empêché. Le fait d'avoir 5 enfants ne m'a pas empêché de connaître une vie professionnelle très, très riche. Et donc, non seulement donc, j'ai été collaboratrice d'un avocat, d'un expert comptable, mais aussi... j'ai travaillé dans le domaine agroalimentaire, agro-industriel. Pendant 10 ans, j'ai été responsable des betteraviers sucrières. J'ai fait le lien entre les industriels et les planteurs de betteraves. J'ai connu ce que c'était que tout le monde agricole. J'ai été aussi responsable de la réinsertion de jeunes en difficulté. Là aussi, pendant 10 ans. C'est le sous-préfet qui m'avait demandé de m'occuper de ces jeunes qui étaient sortis du système scolaire et pour appliquer des mesures qui avaient été mises en place par Madame Martine Aubry, qui était à l'époque ministre du Travail. Parallèlement, ce que je fais actuellement, je concentre mon activité dans le rôle associatif familial. J'ai créé un cabinet de médiation familiale et puis j'ai créé aussi 2 entreprises dans le Nord Sarthe, à Mamers. Une entreprise...
Pourquoi êtes-vous candidate
Je continue. Je suis candidate parce que je voudrais bien montrer que je suis dans le...
Vous voyez.
Si, et je voudrais dire que je suis donc... J'ai créé un centre infirmier avec 8 infirmières, qui vont sur le terrain. J'ai créé une entreprise de portage de repas à domicile. Ça a permis de faire des emplois, une 20aine d'emplois sur Mamers, et de permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, c'est pour montrer que je ne suis pas qu'une politique. C'est la politique, je me suis engagée, parce que je me suis engagée dès le traité de Maastricht. Ce que je disais, c'est que je ne suis pas du tout d'une famille de politique, mais en même temps, j'avais conscience, j'étais à l'époque maire adjoint de Saint-Longis, ma petite commune, et j'ai pris conscience que notre France qu'on nous aimons allait être englobée par un gros machin qui s'appelle l'Union européenne, et les années m'ont montré qu'il y avait de quoi vraiment s'inquiéter au niveau de la place de la France dans l'Europe.
Olivier Lacat, vous êtes le suppléant de Karine Fouquet, qui est candidate pour Lutte ouvrière. Une petite présentation et dire pourquoi Bonjour. Lutte ouvrière, notamment vous et Karine Fouquet, vous êtes engagés dans cette 5e circonscription.
Merci de nous inviter, c'est pas souvent. Donc, Karine Fouquet est attachée territoriale, je suis moi-même enseignant. Nous sommes des travailleurs, comme... À l'image des 550 candidats qu'on présente en France, nous n'exploitons personne, nous essayons de vivre de nos salaires et ça se dégrade pour tous les travailleurs dans ce pays. Alors voilà, déjà pourquoi on est candidat ? Parce que nous sommes révoltés par ce système capitaliste, quand même, faut le dire. Il accumule des richesses à un bout et la misère à l'autre bout. On est révolté parce qu'il détruit la planète, ce système. Il nous prépare à une guerre généralisée. Nous nous présentons pour porter, faire entendre les exigences de notre camp. Et notre camp, c'est celui des travailleurs. Celles et ceux qui font tout dans la société, qui font tourner la société. Et nous pensons que seule la force collective des travailleurs pourra changer la société. Et qu'il faut que le monde du travail reprenne confiance en sa force et conscience que son intérêt s'est opposé à celui du grand patronat. On en discutera. Alors, politiquement, on a quand même des choses à dire, et je vais les dire. Déjà, nous nous présentons contre Macron et sa politique au service des riches. Je fais partie des millions de travailleurs qui ont manifesté contre la réforme des retraites. Et pour nous, elle n'est pas classée, l'affaire, hein, parce que c'est une attaque. On va devoir travailler plus longtemps. Ça se détériore, notre vie. Hein. Et on veut aussi se présenter pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs qui ne croient plus aux promesses, parce que finalement, on en rencontre, ils ne croient plus aux promesses. Aujourd'hui, ils sont déboussolés. Les promesses des politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, une fois élus, ils ont fait des promesses. Rappelez-vous Hollande, il va s'attaquer à la finance. Hein. La finance, mon ennemi, c'est la finance. Il avait promis aux travailleurs de PSA Aulnay que l'usine ne serait pas fermée.
Je crois que pour vous reprendre, François Hollande avait essayé, c'était les fameux 75%, et finalement, apparemment, ce n'était pas constitutionnel.
Il avait quand même établi l'impôt sur les grandes fortunes.
Je poursuis. Les gens qui nous écoutent jugeront. Je pense qu'ils rejettent maintenant ces politiques-là. D'ailleurs, pourquoi ils les rejettent ? Parce qu'une fois élus, et c'est ce que je voulais dire, donc PSA Aulnay, il avait promis qu'il n'y avait pas la fermeture aux travailleurs en lutte avant les élections. Après les élections, il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Donc c'est que ça. Les travailleurs ne veulent plus de Hollande, ne veulent plus de Macron. Ils en ont marre. Ils se prosternent tous, finalement, quand ils sont élus devant la loi du profit et de la propriété privée des capitalistes. Et c'est vraiment ça le problème. Et nous, on va en discuter de ça. Je vais rappeler des petites choses. En 93, Balladur a commencé à faire une réforme, donc à dégrader sur les retraites nos conditions de départ, de vie. Ensuite, ça a été Sarkozy, la gauche, tout le monde a amplifié l'attaque contre les retraites et n'a jamais remis en cause les attaques précédentes. On ne peut pas leur faire confiance à ces politiciens-là. Et je pense qu'un certain nombre de travailleurs qui nous écoutent le pensent fortement. Et je pense qu'il faut qu'ils votent pour nous dimanche. Et une dernière chose, on se présente aussi contre le Rassemblement National. Parce que pour nous, on pense que c'est une escroquerie dangereuse. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est les intérêts des travailleurs. Et pour nous, Bardella, c'est un politicien comme les autres. D'ailleurs, il suffit de voir, regardez comment ces derniers jours, il s'empresse de rassurer les patrons, de rétro-pédaler sur ses promesses. Hein. Il s'apprête d'ailleurs à gouverner au service des riches, comme l'a fait Macron, en distillant par contre quelque chose de beaucoup plus dangereux pour notre camp, son poison de division entre les travailleurs. Non, j'ai pas fini. En opposant les travailleurs français aux travailleurs qui n'ont pas la nationalité française.
C'est un débat.
Oui, mais moi, j'ai des choses à dire. C'est un raisonnement. Oui, je veux que ça soit entendu.
Mais les autres candidats aussi.
Non, mais c'est pas grave. Je parlerai moins après, mais je veux parler.
Non,
je veux finir ma phrase. Donc, Bardella, il divise les travailleurs entre ceux qui sont de nationalité française et les autres. Donc pour nous, Bardella, plus il aura de voix, plus ça affaiblira notre camp dans ces élections.
Merci, vous avez largement dépassé votre temps de parole.
C'est pas très grave, moi j'ai des choses à dire et je voulais dire jusqu'au bout.
Mais je suis aussi le garant du bon débat.
Et je suis énervé et révolté. J'ai écouté toutes les émissions cette semaine, tout le monde discute calmement comme si la société fonctionnait bien et ça allait bien. Non, ça ne va pas bien. Moi je voulais dire les choses, voilà, c'est dit.
Alors j'ai pas entendu ça tout à fait dans les débats, mais ça vous appartient.
Oh si, tout le monde discute comme si de rien, il n'y avait pas de problème.
Cécile Bell de GC, j'avais une question à vous poser. Alors il y a Nicolas Dupont-Aignan qui fait appel ce matin à vos militants pour la campagne, etc., pour soutenir la campagne de Debout la France. Donc je rappelle qu'on obtient des financements d'État qu'à partir de 5% au niveau du résultat des élections. J'avais une question à vous poser. S'il y a une triangulaire au deuxième tour entre le Rassemblement National, entre le candidat Ensemble et le candidat nouveau Front Populaire, pour qui appellerez-vous à voter ?
Moi, c'est très clair. Je suis pour une coalition de l'Union nationale. Je suis souverainiste.
Ma question, c'est pour qui appellerez-vous à voter sur votre circonscription ? Non, c'est pour qui appellerez-vous à voter sur votre circonscription ?
J'explique pourquoi.
Le temps avance.
Je suis un peu en moins.
Décidément.
Ce que je veux dire, c'est que je suis. Mon engagement a été fait, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'aime la France et que je ne veux pas qu'elle soit engloutie dans une union.
Pour qui appellerez-vous à voter en cas d'une triangulaire?
Et donc, ce ne sera certainement pas le candidat Macron. Certainement pas pour Karl Grelier, certainement pas pour le candidat du nouveau Front Populaire qui a LFI, dont
vous appellerez à voter pour le Rassemblement National.
Et donc,
on va aller plus simple, on va faire plus simple.
Laissez-moi le dire. Et je serai.
Non, mais vous savez qu'on a des thèmes, Madame Cécile Belde-Jessé.
Moi, je veux bien qu'on. Je parlerai moins pour d'autres thèmes. Mais ce que je dis, c'est que je.
Très bien.
On défendra.
On a compris.
Mes voix.
Très bien.
Iront là où le.
Bon, allez, il faut le dire. Vous allez voter pour le Rassemblement National.
Oui, c'est plus simple.
Mais je vais le dire.
Pas besoin de 10 minutes pour arriver à une conclusion comme ça qui était préparée à l'avance. Il faut être aussi honnête. Vous êtes allié.
Mais je suis très honnête.
Vous êtes allié.
Vous avez des liens,
vous dites que vous aimez la France, vous soutenez
oui.
Poutine. Comment est-ce qu'on peut aimer la France en soutenant Poutine? Mais Dupont-Aignan refuse les aides à l'Ukraine, refuse le soutien à des gens qui se sont fait agresser, attaquer.
Dupont-Aignan n'a pas envie de la paix.
La paix, pour l'instant, elle n'est pas en allant en guerre. Mais d'accord.
En envoyant nos Français.
La paix, si c'est la victoire de Poutine, ce ne sera pas une jolie paix. Et sur ce point-là, vous avez un point tout à fait de convergence avec l'extrême droite de M. Bardella, qui a des liens entre le Rassemblement National. Vous êtes de droite extrême, mais il n'y a pas une grande frontière entre les deux.
Monsieur Rouillon, allez, revenons, parce qu'on a quand même des gens qui nous écoutent.
Eh bien oui, c'est les respecter qui comprennent les enjeux.
Il faut respecter les gens.
Moi, j'ai
effectivement que Mme Belde-Jessé. Prennent le temps pour expliquer les choses, ça me paraît normal.
Elle a une minute d'avance dans le débat.
Bien sûr, parce que
j'espère que vous serez aussi clair tout à l'heure lorsqu'on vous posera, j'espère, la question de savoir que vous allez voter comme un seul homme pour LFI et M. Mélenchon.
Non, mais Mélenchon ne sera pas Premier ministre. C'est un chiffon rouge. Mais d'abord, il est minoritaire. D'abord, il n'est pas parlementaire, donc il ne sera pas effectivement Premier ministre.
Il n'y a pas besoin d'être parlementaire pour être Premier ministre.
C'est dans la logique des institutions de la Ve République et c'est souhaitable. En plus, il est minoritaire. C'est un chiffon rouge agité par l'extrême droite et par le clan de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron.
On va avancer.
Donc au moins, on a levé l'hypothèque sur le fait que je ne voterai pas l'investiture de Mélenchon. C'est clair, net et précis.
Voilà. Et donc moi, je reprends ce que je voulais dire toute seule.
Nous sommes à rassembler.
C'est que nous.
Électoral.
Bien, si vous le voulez bien,
on va pour réveiller
l'espoir.
C'est-à-dire Pierre Vaugarny.
Non, pour réveiller l'espoir, la justice sociale.
On se connaît depuis longtemps.
Quand
j'étais avec Philippe de Villiers, Pierre Vaugarny est venu à nos réunions. Je me souviens très bien.
Non, mais vous n'aimez pas la France, la réalité. Quand vous voulez l'avoir,
ça n'a rien à voir avec le FN, comme vous disiez. Le RN, c'est autre chose.
Mais c'est la même chose. On n'a changé qu'une lettre.
Monsieur
s'il vous plaît,
vous suivez la politique ou pas?
Ah bah oui, un peu.
Non, bah pas très bien.
Mais je suis pas naïf non plus.
S'il vous plaît, les autrices et les auditeurs constatent en tout cas qu'on est bien en fin de campagne.
Oui.
Voilà, les tensions montent. Revenons quand même sur le terrain parce que c'est ce qui intéresse nos auditrices et nos auditeurs. Concernant cette cinquième circonscription pour laquelle vous voulez être député, comment se déroule justement sur le terrain votre campagne? Que vous disent particulièrement les personnes que vous rencontrez? Christophe.
Écoutez, moi j'ai toujours fait des campagnes de terrain. D'ailleurs, je reconnais à Cécile Belde-Gessé d'avoir l'avantage de la constance. Et vous n'avez jamais changé de parti politique depuis toujours. Et on en est à peu près à la quatrième ou notre quatrième campagne en commun.
Ouais. Et en tout cas, beaucoup de personnes ici.
Oui, non, mais c'est bien. Mais vous avez eu d'autres aventures et on pourrait aller plus loin dans le détail. Mais ce ne sera pas nécessaire aujourd'hui. Par contre, moi, ce que je souhaitais dire, c'est une campagne de terrain, de respect des électeurs, moi je suis un élu, je suis un maire, j'ai toujours été proche des citoyens, j'ai jamais vu la politique effectivement comme une opportunité de carrière, moi j'ai un métier, j'ai passé un concours comme beaucoup et si j'avais pas de la politique je serais tout à fait autonome, donc c'est pas l'enjeu. Ma campagne c'est une campagne, je vais voir les gens, je les écoute et je vois qu'il y a effectivement une très grande inquiétude par rapport au risque que notre pays bascule dans un régime qui ne serait pas celui de la démocratie. Il y a des inquiétudes, surtout dans le monde ouvrier, dans le monde des salariés, par rapport au bon salaire, par rapport au fait qu'ils ne bénéficient pas toujours d'avantages sociaux au prix de l'essence. Moi, je les écoute et je pense qu'il faut offrir une alternative à la fois au clan Macron et à l'extrême droite. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que nous faisons barrage à l'extrême droite, mais le but c'est de réveiller aussi un espoir. Mais il y a aussi des choses que je n'avais jamais entendues dans des campagnes précédentes, c'est-à-dire qu'il y a une façon débridée aujourd'hui d'exprimer des opinions racistes. Je ne dis pas simplement de voter pour un parti, mais j'ai entendu des choses du genre à la cantonade dans un vide-grenier, quelqu'un qui disait « Allez-vous faire foutre avec vos bougnoules de merde ?» J'ai entendu ça pendant cette campagne. Et ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et cette façon d'agiter effectivement les discriminations, de montrer du doigt des populations responsables de tout, ben je trouve que c'est extrêmement grave parce que ça porte atteinte à la cohésion sociale de notre pays. Donc il y a un climat effectivement un peu électrique, je le regrette.
Voilà, on va en parler justement dans ce débat, figurez-vous, parce que effectivement il y a des choses qui remontent au niveau des journalistes et on est là aussi évidemment pour en parler. Olivier, avec Karine Fouquet, puisque vous êtes en campagne pour Lutte Ouvrière, qu'est-ce que les gens vous disent dans cette circonscription que vous connaissez bien, puisque c'est pas la première fois que vous êtes candidat.
Les gens, ils disent
qu'est-ce qui a évolué ?
Les gens, ils disent la même chose partout. C'était un problème national, c'est pas qu'un problème de cinquième circonscription. Ce qui ressort, c'est politique quand même. C'est que les gens, ils en ont ras-le-bol de Macron. Mais énormément, je pense que y a les gens qui sont coupés du terrain de la classe ouvrière, des travailleurs, ne mesurent pas à quel point les gens rejettent Macron. Ce président des riches qui les a méprisés pendant tout son quinquennat. Mais une autre partie des gens, ils ne croient plus aux belles promesses. Et d'ailleurs, ils vont s'abstenir. Là, actuellement, il y a encore 30 à 40% des gens qui comptent s'abstenir. Et d'autres envisagent, pour faire barrage à Macron et à tous ces politiciens finalement qui sont passés avant lui, de voter pour le Rassemblement National. Alors, globalement, les travailleurs, ils sont déboussolés. Ils savent plus trop pour qui voter. Hein.
Ils cherchent peut-être voter pour vous, peut-être.
Alors attendez, ils cherchent le nouveau sauveur. Et justement, nous, on n'y croit pas au nouveau sauveur. Hein. Donc les travailleurs aujourd'hui cherchent encore quelqu'un qui va peut-être changer leur vie, etc. Nous, on essaie de les convaincre qu'il n'y aura pas de sauveur et qui sortira de ces élections.
Même pas Lutte Ouvrière ?
Non, justement pas Lutte Ouvrière. Qu'il faudra qu'ils ne comptent que sur leur lutte. C'est ça qu'on veut faire passer. Là où ils travaillent et là où ils habitent. Et sans ça, il n'y aura pas de changement dans la société. Et nous, on tient à le faire entendre, ça. On trouve ça très important. On n'en est pas là, les gens sont résignés, mais il faudra qu'on se batte.
Pierre Vaugarny sur le terrain, parce qu'il faut qu'on avance, hein. Il est déjà presque la demi, on n'a pas abordé un seul thème. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain de cette élection pour le premier tour des législatives ?
Des gens qui n'ont plus de repères, des gens qui souffrent. Dans leur quotidien, des gens qui ont l'impression de ne pas être écoutés par rapport à des thématiques de pouvoir d'achat, d'insécurité, d'immigration. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent enfin reprendre le pouvoir. Des gens aussi qui s'aperçoivent que, vous savez, tous ces politiques qui sont succédées depuis 20 ou 30 ans, avec des alternances, on va se le dire, des alternances fictives, il y a des gens qui veulent essayer de donner le pouvoir à des gens qui ont été constants. Vous savez, bien avant les autres, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des gens qui disaient, vous savez, l'insécurité, c'est un vrai problème.
On va en parler, justement.
Moi, on me répondait, vous savez, c'est le sentiment. Vous savez, en clair, vous êtes déconnecté, c'est pas la réalité. Des gens qui vous expliquent aujourd'hui que travailler, quand vous êtes un couple qui travaille, eh bien aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui vivent de revenus uniquement social. Nous, on veut aussi redonner des bases, c'est-à-dire la priorité au travail, redonner à l'État sa place centrale, sa place directrice, et enfin arrêter ce que j'appelle le « en même temps » qui est absolument dramatique.
Cécile Belle de Gessé, vous qui êtes aussi habituée à aller à la rencontre des électrices et des électeurs de cette circonscription, très rapidement, qu'est-ce qui est différent entre la dernière élection de 2022 et celle de 2024. Seulement ce qui est différent.
Eh bien, écoutez, mais ça fait une énorme différence. Tous ceux que je rencontre, aussi bien mes salariés que les gens que je rencontre autour de moi, ceux que avec qui je discute, ils sont tous exaspérés d'être méprisés, d'être trompés. Et ils ne supportent plus Emmanuel Macron, c'est clair. Et ils ont conscience que qu'il va falloir trouver autre chose que la gauche et la droite qui les ont trompés depuis le début. Et vraiment, le climat et ce qu'on a vu comme résultat aux européennes, c'est vraiment ce qu'on ressent sur le terrain.
En quelque sorte, vous êtes en train de nous dire, puisqu'on a essayé la droite, puisqu'on a essayé la gauche, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui l'Assemblée nationale ?
Voilà, c'est ce qui est ressorti des urnes il y a 15 jours. Voilà, moi ce que je pense, c'est que il faut donner sa chance à une, parce que il faut quand même bien dire que s'il y a une coalition, on a vu.
Alors on n'est pas en train de je parle bien de oui. ce que vous disent les gens sur
oui.
voilà.
Oui oui, et ben ils ont bien repéré que ce que je disais sur les élections européennes, on représente exactement ce qu'on entend sur le terrain.
D'accord. Hausse des salaires, blocage des prix de certains biens et même baisse des tarifs pour l'énergie, les candidats aux élections législatives rivalisent de propositions pour doper le pouvoir d'achat après 2 ans et demi de crise inflationniste. Quelles mesures sociales et économiques préconisez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat des Français avec la contrainte du déficit de la France? Rappelons que la France a été rappelée alors par la Commission européenne le 19 juin. Elle devra apporter des mesures dans son budget 2025, donc c'est pour le budget de demain, pour un déficit excessif. Le tirage au sort a désigné pour commencer Cécile Bell de Gessé, justement, candidate Debout la France.
Oui, moi je suis convaincue que l'amélioration du pouvoir d'achat permettra de relacer l'économie. Alors, cette amélioration se fera par la diminution des charges, à la fois des particuliers, des artisans, des PME-PMI, des agriculteurs. C'est eux qui créent l'emploi et c'est eux qui sont le socle de notre économie. Et pour cela, nous aurons deux mesures prioritaires. La baisse des taxes sur les carburants. Il faut se rappeler que l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'était justement l'augmentation exponentielle des carburants. Qu'est-ce qu'il y avait sur les ronds-points ? C'était les artisans, les commerçants, tous ceux qui n'arrivaient plus à joindre le debout. Ceux qui, dans notre milieu rural, doivent utiliser la voiture. Donc, et la deuxième chose, c'est sortir du marché européen de l'électricité pour établir un prix national. À l'heure actuelle, le prix de l'électricité on le produit, nous, à 40 euros le mégawatt, et il est vendu à nos compatriotes à 180 euros le mégawatt. Tout ça parce que on est dans un marché européen. Donc il faut absolument sortir. Nous avons les moyens de produire pas cher comme nous l'avions avant. Et ce serait une des choses qui permettrait à l'ensemble de nos compatriotes une augmentation du prix.
Merci Cécile Bell de Gessé. Christophe Rouillon pour le nouveau Front Populaire.
Alors, je crois qu'il faut être très précis sur les propositions concernant le pouvoir d'achat et ne pas effectivement susciter des attentes qui seront déçues par la suite.
L'Espagne et le Portugal l'a fait niveau du...
Non, mais ils n'ont pas le même système parce qu'eux, ils sont très liés à l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié.
Oui, non,
en réalité, ce qu'il faut expliquer rapidement, c'est que si nous avons eu cette augmentation, c'est parce qu'il fallait assurer la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi nous sommes alignés sur la dernière centrale à gaz allemande. Mais depuis la remise en service de la centrale de Flamanville et de nos centrales nucléaires, au contraire, nous devenons exportateurs d'électricité, donc les prix vont naturellement se stabiliser. Et il faut tout à fait... Moi, je suis pour un mixte énergétique. Effectivement, le nucléaire est tout à fait utile parce qu'on ne pourra pas faire face à la nécessité d'avoir une énergie décarbonée dans le futur sans avoir le nucléaire. Donc,
c'est bien, vous avez évolué, c'est dommage que vous n'avez pas fait...
Non, moi, j'ai toujours été favorable à cette position. C'est sous François Mitterrand qu'on a construit le plus de centrales nucléaires, donc vous ne pouvez pas dire le contraire.
C'est sous Hollande que...
Non, non, mais c'est...
Qu'on a supprimé Fessenheim.
On a fermé Fessenheim, mais par contre, c'était une centrale ancienne, donc maintenant, effectivement, on va avoir...
Oui, oui.
Mais aujourd'hui,
vous racontez tout ce qu'il faut.
Attendez.
Nous, on a une production qui ne coûte pas cher, qui est décarbonée. Elle a été mise à mal par Hollande, dont socialistes comme vous, et on en paye. Alors Macron maintenant essaie de rattraper les choses, mais il faut absolument sortir de ce marché européen.
Le marché européen nous permet d'abord de vendre à l'Allemagne, donc effectivement de.
Mais on vendra à l'Allemagne pareil, puisqu'on aura, on coûtera moins.
Maintenant, si le marché européen est coupé, on vendra pas à l'Allemagne. Donc
vous inquiétez pas. Si on propose.
Si je peux en placer une, ce serait bien.
C'est le prix de l'offre et de la demande.
Mais si le marché européen est coupé, on ne prendra plus l'Allemagne, ça c'est simple. Donc effectivement, il faut avoir la possibilité de pouvoir vendre sur le marché européen, également de pouvoir mutualiser et de pouvoir assurer.
On vendra.
Mais si je peux en placer une, sinon je m'en vais de ce débat. Et si vous pouvez parler tout seul, vous êtes dans un meeting, mais vous arrêtez de me couper la parole toutes les 5 minutes, merci. Voilà, donc effectivement, c'est important d'avoir un marché pour pouvoir à la fois assurer notre sécurité d'approvisionnement. Le pire, ce serait le blackout. Et puis également de pouvoir avoir une énergie qui soit la moins coûteuse pour nos concitoyens. Donc effectivement, l'avenir, c'est de pouvoir agir sur le prix de l'électricité, de bloquer le prix de l'essence. Ça, c'est une proposition très concrète. Aussi de travailler sur les négociations salariales. Je crois que le défaut aussi d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir travaillé avec les entreprises, les syndicats. Parce que aujourd'hui, il y a des richesses qui se créent et elles ne sont pas réparties suffisamment. Vous avez aujourd'hui dans la circonscription des entreprises du CAC 40 qui vont dans le monde entier, qui font énormément de profits, qui sous-traitent à d'autres entreprises qui ne payent pas suffisamment. Et puis aussi, je pense qu'il est nécessaire aussi sur les allocations, en particulier les allocations de logement, les plafonds sont trop bas. Il y a des gens qui travaillent qui ne puissent pas en bénéficier, également des retraités. Sur la question des allocations familiales, je pense que là aussi, on a à travailler parce que sur la question de l'universalité, il faut revenir à ces politiques d'incitation qui contribuent aussi au pouvoir d'achat. Et le salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, une des erreurs, c'était de bloquer le point d'indice. Je pense qu'il faudra le débloquer et travailler sur l'ensemble de la grille des salaires. Aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à l'Union européenne, d'avoir une prospérité qui n'a fait que croître depuis 50 ans. Il faut par contre maintenant s'attaquer aux inégalités, taxer les hyper-profits, les hyper-riches, et mieux répartir. Et je ferai la transition très rapidement sur l'avenir. Si on isole mieux nos bâtiments également, et nos logements, on aura aussi plus de pouvoir d'achat, parce qu'un logement isolé, c'est des loyers en moins et c'est des dépenses d'énergie en moins.
Christophe, merci Christophe Rion. On rappelle que vous êtes le candidat socialiste investi par le Nouveau Front Populaire. Pierre Vaugarny, vous êtes le candidat du Rassemblement National. Sur cette question du pouvoir d'achat.
D'abord, Monsieur Rion qui parle de la prospérité grâce à l'Europe, je pense qu'on ne rencontre pas les mêmes personnes, et je referme la parenthèse.
C'est un fait, on est en croissance depuis 50 ans grâce à l'Europe, et l'Europe nous a sauvés au moment de la crise.
C'est aussi une des différences.
Mais oui, mais vous voulez être 60 millions sur 9 milliards, comment vous allez le défendre sans l'Europe?
Laissez-moi parler, Monsieur
Rouillon. Oui, je vous laisse parler.
Merci. C'est aussi une des différences que l'on a entre des gens qui sont dans l'idéologie et d'autres qui sont peut-être beaucoup plus dans le concret. En ce qui concerne, vous savez, demain, on sera au pouvoir, la situation est difficile. Vous savez, nous, c'est pas une alliance électorale de gens qui n'ont rien en commun.
Avec Ciotti. C'est une alliance électorale.
Vous êtes gentil. Je vous remercie de me laisser parler.
Et Madame
c'est pas une alliance électorale qui est un fourre-tout. On a vraiment une responsabilité. Les gens nous attendent. Les gens et nous le disent, hein, on vous attend.
Vos propositions
et très concrètement, la première des choses, ça va être d'abord de faire un audit des comptes publics. Parce que, notamment, suite au rapport du Sénat, on sait aujourd'hui que nous ne savons pas tout.
Je vous assure que les électrices et les électeurs s'en moquent. Qu'est-ce que vous leur proposez pour leur pouvoir d'achat?
Ils s'en moquent peut-être. Il y a une chose dont ils ne se moquent peut-être pas. C'est que, écouter des promesses, le catalogue de la redoute de promesses dont on sait très bien. On sait très bien qu'il n'y a pas la moitié qui pourrait être tenue.
Mais quelles sont les premières?
La retraite à 60 ans, Bardella est revenu dessus.
La méthode. Là, il y a une méthode d'urgence. L'urgence, d'abord, ça va être de réduire les taxes sur l'énergie, sur l'essence, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça pèse très lourd sur le pouvoir d'achat de nos ménages. Également, le sujet de la médecine. On a aujourd'hui, et ça, on n'en parle pas, et c'est quand même regrettable, il y a aujourd'hui des gens qui sont dans une précarité médicale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs depuis 20 ou 30 ans. Il y a des gens qui n'ont pas vu les choses venir. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Ce que l'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des mauvais choix.
Alors, il y a aussi plus de personnes âgées.
Il y a aussi plus de personnes âgées.
Voilà.
Mais c'était des choses qui étaient prévisibles. Des choses qu'on n'a pas anticipées. et toutes les personnes qui sont autour de la table ont été à un moment donné au pouvoir. Nous ne l'avons pas été.
Si, vous l'avez été. Entre 39 et 44, vous avez été au pouvoir avec
monsieur,
le maréchal Pétain.
Monsieur, vous un peu de
pouvoir,
respect.
Vous êtes en pouvoir
en
Russie.
Non, je ne peux vous pas vous permettre de...
Vous êtes en pouvoir. Il y a une majorité de dictatures dans le monde. Et vous dites qu'on n'a jamais essayé.
Je ne peux pas vous laisser ça.
Mais le Front National est un parti fondé par des collaborateurs.
C'est extrêmement malhonnête de parler, c'est extrêmement méprisant. Je ne peux pas vous laisser dire ça.
C'est pas méprisant,
ça m'étonne de vous, monsieur Rouillon.
Vraiment.
Mais ceux qui ont étudié l'histoire savent que vous avez été au pouvoir entre 39 et 44.
Maintenant, nous savons pourquoi vous êtes soutenu par la France Insoumise, parce que je pense, et je ne pensais pas ça, je pense que vous avez vraiment...
Mais vous êtes révisionniste.
Vous êtes vraiment,
imbibé
de l'idéologie, monsieur.
Mais attendez, Jean-Marie Le Pen, créateur du Front National, qui est maintenant le Rassemblement National, est un parti qui est écrit par... Pendant la deuxième guerre, avec des héritiers de la seconde guerre.
Christophe Rouillon, s'il vous plaît. On laisse poursuivre, s'il vous plaît, Pierre.
On vous a déjà essayé, et on vous essaye partout dans le monde.
La santé.
Il y a une majorité de dictature.
Monsieur Rouillon.
Ah ouais.
Vous perdez votre sang-froid, monsieur Rouillon.
Je le dis avec calme.
Et vous savez, monsieur Rouillon...
S'il vous plaît, je vous assure que les autrices et les auditeurs n'aiment pas du tout ce genre d'échange.
Non, mais enfin, à un moment donné, vous comprenez quand même que les gens ont le droit quand même d'avoir des propositions sans être coupés par...
C'est le jeu du débat en même temps.
On n'a pas entendu de proposition pour l'instant.
C'est le jeu du débat.
La baisse des taxes, ça c'est du concret, monsieur Rouillon,
et ça c'est
immédiat. Et nous veillerons à ce que ça redescende. La mise en place d'un dispositif d'urgence, je dis bien d'urgence vis-à-vis des médecins, en proposant aux médecins qui sont en retraite de revenir en activité en les dédouanant de toute imposition, ça c'est quelque chose d'extrêmement concret. Madame Belbegessé, tout à l'heure, a évoqué quelque chose également sur lequel il faut revenir. C'est ce marché européen de l'énergie. Nous étions en Europe enviés de tous parce que nous avions l'énergie au travers du nucléaire. Merci Général de Gaulle d'ailleurs. Nous avions l'énergie la moins chère qui permettait à notre économie de fonctionner et d'avoir, on va dire, une compétitivité. Merci à ceux qui ont suivi dans une idéologie verte, dans une idéologie... absolument suicidaire pour notre territoire et nos emplois. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous devons renverser la tendance et revenir à une défense de nos entreprises, de nos ménages et de notre population. Nous allons avoir des mesures d'urgence et ensuite, nous allons planifier selon le résultat de l'audit qui sortira. Dès l'automne, nous allons voir une ligne stratégique et selon ce qui sortira, allons, notamment sur les retraites,
Olivier Lacave, s'il vous plaît.
Structurante.
Je voudrais déjà rebondir sur ce que M. Vogarny a dit tout à l'heure sur reprendre le pouvoir, parce que je pense que c'est un mensonge. Dire aux travailleurs dans ce pays qu'ils ont eu un jour le pouvoir, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Le pouvoir, il est entre les mains des grands groupes capitalistes, des banques. Il n'est pas en main des travailleurs, donc ça c'est un mensonge, je voulais juste le dire. D'ailleurs le RN, quand il sera au pouvoir, il écoutera ce que disent les capitalistes et point barre, il ne fera rien pour les travailleurs. Donc par rapport au pouvoir d'achat, quand même, vous avez commencé par dire que la dette c'est une contrainte indépassable, moi je ne suis pas d'accord. Cette dette, c'est pas celle des travailleurs.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Non, mais c'est pas grave. Je dis ce que moi j'ai à dire. Non, mais ils disent ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est des capitalistes. Je veux dire, nous, on pense que les travailleurs, ils ont pas de dette. C'est pas eux la dette. C'est les capitalistes qui ont des dettes. Et d'ailleurs, c'est le problème dans la société. Ils nous conduisent à la catastrophe avec leurs dettes. Et alors, on n'a pas à la payer par des sacrifices. Et ça, on veut le dire. C'est important. Parce que si on ne dit pas nous qui le dit, tout le monde dit ah la dette. Non. La dette, elle est celle des capitalistes. L'État, il a sorti combien de milliards en 2008 pour aider les banques pour soutenir le système.
C'est grâce à l'Union européenne qu'on a pu se sauver pendant cette période.
Alors, je voudrais parler des salaires, parce que nous, on pense que c'est les salaires. Et le problème, le salaire réel en France, il baisse par rapport à l'inflation, quand même, depuis des années. Et ça, c'est un gros problème. Alors, nous, on ne fait pas de promesses. Tout le monde fait des promesses. Je vais faire ci, je vais faire ça. Non. La seule chose qu'on peut promettre, et on peut le faire, c'est qu'il va falloir se préparer aux attaques, parce que nos conditions de vie ne vont pas s'améliorer avec ces élections. Elles vont pas s'arrêter après les élections, les attaques. Donc, pour nous, le salaire, depuis toujours, il dépend des rapports de force entre les travailleurs et le patronat, depuis toujours. D'ailleurs, là où on voit des augmentations de salaire ces derniers mois, c'est dans les entreprises où il y a des luttes, des grèves, d'accord ? Donc, à Lutte Ouvrière, on est bien sûr pour l'indexation des salaires sur les prix, et les retraites aussi, mais sur les vrais prix. Sur la vraie inflation, la inflation réelle. Alors, Et même on va plus loin que ça. C'est quand même les travailleurs qui font tout dans la société, c'est eux qui produisent les richesses. On pense que ce travailleur, ils savent ce qu'ils ont besoin à la fin du mois, c'est aux travailleurs de décider eux-mêmes ce qu'ils ont besoin à la fin du mois. Et nous, on pense, il suffit de questionner, de discuter avec des travailleurs, il faudrait que minimum 2000 euros, aujourd'hui on ne peut pas vivre décemment avec moins de 2000 euros par mois. Alors, les travailleurs font tout tourner dans la société, j'ai déjà dit, donc c'est à eux de décider ce que c'est qu'un salaire décent. Ah oui, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on peut entendre, mais nous, on ne va pas dans le consensus de ce que les partis qui sont finalement qu'à l'écoute des grands capitalistes qui ont des milliards disent. Et nous, on dit, et ça c'est très important à ceux qui nous écoutent, c'est vos luttes qui permettront de changer les choses, rien d'autre. Et je voudrais rappeler quand même, et j'ai encore du temps, qu'en 1936, le Front Populaire... C'était une grève générale. La grande bourgeoisie française a eu très peur. Et elle a lâché des choses, alors qu'elle disait qu'il n'y avait pas d'argent, que ce n'était pas possible. 12% d'augmentation de salaire en moyenne, 2 semaines de congés payés et la semaine de 40 heures de travail.
Merci les sociaux-démocrates.
En 68, j'enchaîne. Le patronat disait que ce n'était pas possible, que ça allait ruiner l'économie. Le SMIC, il a augmenté de 35% après la grève générale. Alors c'est ça l'avenir. C'est qu'on se défende par nos luttes, par nos grèves. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent, je vais quand même rappeler que les 10 fortunes les plus importantes en France, ça représente 667 milliards d'euros, d'accord ? Et que, je pense que les gens qui m'entendent voient tout de suite ce que ça veut dire.
C'est pas du cash.
Les profits, c'est pas du cash, mais ça montre quelque chose quand même. Ces fortunes n'arrêtent pas d'augmenter. Ce qui n'est pas le cas de nos salaires, on s'appauvrit, nous. Hein. Le CAC 40, 146 milliards d'euros, d'accord, de profit, les entreprises du CAC 40 l'an dernier. Et c'était à peu près pareil toutes les années précédentes. Des dividendes, 63 milliards d'euros. Alors, c'est là qu'il faut chercher l'argent, hein. Moi, je pense, c'est là qu'il faut chercher l'argent. Il ne faut pas aller le chercher à faire... Parce que finalement, les autres mesures, c'est de faire des cadeaux au patron d'une façon ou d'une autre. Voilà.
Merci Olivier Lacarme. On rappelle que vous êtes le suppléant de Carine Fouquet, qui est candidate pour lutte ouvrière sur la 5e circonscription. On ne va pas avoir le temps, évidemment, de traiter les sujets que j'avais prévus à l'ordre du jour. On ne parlera pas du climat, mais on invite les électrices et les électeurs à aller consulter votre programme. On ne parle pas non plus de l'insécurité, même s'il y avait peut-être des choses à dire. On va parler de, je dirais, cette fin de campagne. Il y a des choses que les journalistes relève par rapport à l'ambiance, et on voit qu'elle est très très électrique en cette fin de campagne. En 2024, on l'a vu, hein, les Françaises et les Français sont préoccupés par la question de l'insécurité, sont préoccupés par l'immigration. Les résultats aux élections européennes d'ailleurs confirment cela et votent pour des propositions drastiques concernant l'immigration. Sur le plan sémantique, on parle aussi, je voudrais dire aux auditrices, aux auditeurs, pas seulement d'immigration, mais aussi on peut employer les mots migration et exil. Depuis la victoire du Rassemblement national aux européennes et sa proximité aux portes du pouvoir, des journalistes constatent et rapportent des faits d'insultes et d'invectives à caractère raciste, xénophobe et homophobe sans aucun complexe, instaurant un climat d'inquiétude et de peur. Ma question est simple, pour terminer ce débat, parce que ça me semble important, pour rassurer un certain nombre de personnes qui s'inquiètent, quelles sont vos propositions pour pacifier les liens sociaux et culturels en France? Et le tirage au sort, vous êtes désigné Pierre Vaugarny, vous êtes le candidat du Rassemblement National.
Effectivement, je fais le même constat que vous. Il y a des tensions, notamment ces dernières semaines, qui sont extrêmement importantes. Vous savez, lorsque vous avez un vote, lorsque les gens se sont exprimés clairement, et que le lendemain matin, des gens au nom de la démocratie descendent dans les rues pour contester justement les fondements même de la démocratie, c'est-à-dire l'expression libre de chacun, qu'il soit simple ouvrier ou milliardaire. Eh bien moi je dis que oui, il y a des gens aujourd'hui qui sont dangereux. Et nous, en tout cas, on n'aura pas la main qui tremble, ça ne sera pas le bazar. Et je montre du doigt l'extrême gauche qui aujourd'hui cherche à faire peur, au travers de comportements, au travers de... Alors, je suis vraiment désolé, mais vous avez bien vu, enfin, vous avez entendu tout à l'heure des propos qui sont mais absolument infondés et incroyables, quoi. comment on peut encore parler comme ça aujourd'hui. En ce qui concerne l'immigration, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michel Rocard, peut-être que...
Alors concernant, s'il vous plaît, par rapport à ma question...
Mais comment... on va être clair, c'est-à-dire que l'immigration, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, on a bien compris.
Alors, c'était pas ma question. Je redonne ma question. Quelles sont vos propositions pour pacifier les liens sociaux et culturels en France ?
D'abord, avoir une immigration choisie, voilà, contrôlée et non pas subie. Au nom d'idéologie ou au nom d'une Union européenne qui a, on voit bien, qui ouvre les vannes avec derrière un ensemble de choses. Vous suivez l'actualité. Je vais parler plus loin sur ces sujets-là. En tout cas, nous, on veut reprendre la main. On veut que les Français aient le choix, que la France ait le choix de choisir sa destinée et d'accueillir de façon précise et non pas de subir. Donc, nous aurons, vous avez bien compris, un tour de vis très important et une attention extrêmement particulière sur qui rentre dans ce pays. Et pour ceux qui rentrent, c'est pas un CDI, c'est pas quelque chose que ça se mérite aussi, la nationalité française. Ça veut dire que lorsque vous avez des délinquants qui sont là de façon en plus pas autorisée, clandestins, eh bien ces gens-là, c'est normal, enfin, je veux dire. Ces gens-là, évidemment, sont raccompagnés. On nous a dit qu'on laisserait des gens dans la détresse, bien sûr que non. On aura une aide médicale d'urgence. Par contre, moi, quand je vois des gens qui travaillent, hein, qui sont des retraités, qui ont des mutuelles, qui ne peuvent pas se payer des soins dentaires ou des soins.
On reste sur le
mais
sujet.
C'est la vérité.
On reste sur le sujet, si vous voulez.
C'est la vérité. C'est l'argent de tous.
J'ai une question à vous poser quand même, Pierre Vaugarny. Une question à vous poser, Pierre Vaugarny, parce qu'on nous la pose vraiment, cette question, et que ça commence à faire des inquiétudes. Vous êtes le candidat du Rassemblement National. Par rapport à ces comportements où on agresse des personnes parce qu'elles sont de couleur, je vous jure qu'il y a plein d'exemples. Parce que, il y a des propos racistes, xénophobes et homophobes. Est-ce que vous les condamnez, ces comportements-là ?
Mais bien sûr ! Est-ce que vous pensez que c'est nous qui sommes... Est-ce que vous pensez que c'est nous qui sommes laxistes en termes de sécurité ? Est-ce que c'est nous... À un moment donné, il faut quand même dire les choses. Est-ce que c'est nous qui applaudissons lorsqu'il y a un commissariat de police qui est brûlé ? Est-ce que c'est nous, Monsieur Rouillon, j'ai été le premier
vous insultez la police, vous dites que la police est laxiste, c'est pas vrai. Moi, je travaille avec tous les jours, on a démantelé ensemble avec la justice des points de deal à Coulaines. Et c'est comme ça qu'après l'incendie qu'on a subi, on a une situation calme. Et Coulaines est une des villes les plus sûres de France, et ce sont les chiffres de la police. Alors ne dites pas que la police, ce sont des menteurs.
La police fait ce qu'elle peut dans des conditions difficiles et
il travaille sur le terrain et
force est de constater qu'il y a des mouvements politiques aujourd'hui qui n'appellent pas à la sérénité.
Merci Pierre
et nous en tout cas
Olivier
nous serons
Lacave, Olivier Lacave, nous... vous êtes le suppléant de Karine Fouquet.
Vous parlez de nous, on agit.
Par rapport à cette question, à cette ambiance qui est rapportée par la presse en ce moment.
Le bien vivre ensemble donc propose le RN, c'est faire que les pauvres fassent la guerre entre eux finalement. La guerre entre travailleurs en s'en prenant à une partie du monde du travail, les étrangers, les migrants. Et nous on représente en tout cas on porte la parole des intérêts des travailleurs et en fait, vous en faites des boucs émissaires, ces travailleurs, parce que ce sont des travailleurs qui essaient de vivre de leur salaire et vous en faites des boucs émissaires de tous les maux qui accablent les classes populaires. Donc vous êtes un danger hein, pour le... Ça va... Vous ajoutez de la tension à la tension, vous essayez de... la guerre entre pauvres. Mais c'est pas nouveau, l'extrême droite ça a toujours été la guerre entre pauvres. Par contre, vous ne ferez rien pour vous attaquer aux véritables responsables de la misère.
Non, mais je finis.
La misère, qu'est-ce que vous proposez pour combattre le chômage, la misère sociale et morale qu'il y a dans les quartiers populaires ? C'est là-dessus que la délinquance et l'insécurité a poussé. Vous proposez rien, vous proposez juste de vous attaquer à des boucs émissaires. Et demain, on le verra. Demain, on ne sera pas plus fort, nous, le camp des travailleurs. On ne sera pas plus fort, on sera affaibli. Tous les travailleurs qui voteront pour vous, ils votent contre leur ennemi politique. Ils seront affaiblis parce que vous êtes du côté des riches aussi et c'est tout. Et vous n'en avez rien à faire des quartiers populaires. Vous n'en avez absolument rien à faire. Voilà ce que j'en pense.
Voir des gens
Donc le vivre ensemble, ça ne viendra pas avec vous. Vous n'avez rien à proposer. Juste que ça soit pire. Voilà, c'est la situation.
Voir des gens sans domicile aux mains.
Vous avez un peu utilisé votre temps de parole, Pierre.
Je peux voilà. quand même le dire. Parce que l'humanité, lorsque c'est voir des gens qui sont dans une défaillance et dans une précarité totale au bord des rues, eh bien, effectivement, pour moi, ça, c'est pas de l'humanité. Ça, c'est pas de l'humanité.
Christophe Rouillon, vous êtes le candidat socialiste investi par le Nouveau Front Populaire. Les propositions pour pacifier les liens sociaux et culturels en France.
D'abord, je pense qu'il faut remettre de la concorde et ne pas montrer du doigt des populations. On a tous besoin, on a besoin de vous, on a besoin des travailleurs étrangers, on a besoin des travailleurs français. On n'est que 65 millions dans le monde. Les Français, si on n'est pas capable de concentrer nos forces, effectivement, vous savez, il y a des gens de couleur qui sont pas bien, mais il y en a aussi des blancs qui sont pas bien. Donc, il faut être 65 millions et dire aujourd'hui, par exemple, que si vous êtes double national, vous pourrez pas exercer certains postes de responsabilité. Si vous êtes d'origine étrangère, même si vous travaillez, vous allez nettoyer les chiottes des hôtels pour être vulgaire ou alors même faire les routes avec le bitume et respirer des émanations toute votre vie, vous devez dégager de votre appartement HLM. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on peut arriver à de la France. Et moi, je suis d'accord de dire avec vous que l'expression raciste n'est pas une opinion, c'est un délit. J'ai un ami qui est ophtalmo, qui soigne des dizaines de milliers de personnes. Il était victime dimanche soir après les élections parce que les gens se disent, ça y est, l'extrême droite va arriver au pouvoir, on peut commencer à se libérer. Il était victime d'une insulte raciste. C'est scandaleux. Ce sont des gens dont la France a besoin. Moi, ce que je veux dire, c'est que vos propos m'inquiètent un peu parce que j'ai l'impression que dès qu'on est à partir de François Bayrou, on est déjà d'extrême gauche. Donc, et vous, quand vous dites qu'on n'a pas le droit de manifester après les manifestations qui ont eu lieu contre l'extrême droite pour ressusciter un nouvel espoir, sont des manifestations se sont bien déroulées. Au moins, il n'y a eu aucun incident. Donc aujourd'hui, lutter contre l'antisémitisme, je dis clairement, mon président de comité de soutien, c'est le président de la communauté israélite de Hassa, lutter contre le racisme, lutter contre les personnes qui discriminent, contre l'homophobie. Ça, ce sont des choses qui appartiennent à notre société. Nous sommes pour la liberté, pour l'égalité, c'est pour ça que nous avons un programme de justice sociale, pour le progrès social, mais aussi de fraternité. Et sans la fraternité, la France explosera, et dans le contexte actuel, ça me semble être extrêmement dangereux et mauvais, à la fois pour l'économie et pour
les citoyens. Réalité, monsieur Rouillon.
Bah écoutez, moi je vis
dans le même monde, monsieur Rouillon.
Ben je sais pas, mais en tout cas, moi il y a des gens, ils ont compris la 5e circonscription de la Sarthe, qui ont caché des juifs pendant la guerre, qui n'ont pas montré des gens du doigt, et d'autres, malheureusement, ils se laissent abuser par votre discours, et quand tu subis des situations difficiles, ils sont obligés de trouver plus malheureux qu'eux pour effectivement dire
défendre les juifs, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Madame Obono?
S'il vous plaît, vous avez quand même utilisé votre temps de parole. Vous avez utilisé votre temps de parole.
Je les désapprouve.
Cécile Belle de Gessé.
Merci.
Cécile Belle de Gessé, s'il vous plaît, sur cette question. Cécile Belle de Gessé. Cécile Belle de Gessé, s'il vous plaît, rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce débat.
Il y a beaucoup de gens qu'il ne faut pas insulter non plus.
Cécile Belle de Gessé, vous prenez la parole ou pas?
Bah attendez, moi j'attends qu'on me laisse. Oui, qu'on me la donne.
Bah je vous la donne.
Donc, moi je voudrais revenir sur le pouvoir d'achat.
Non, on reste sur ce thème-là. Bon, écoutez, mais vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. Hein.
Non, moi j'ai un avis. Je pense que on voit bien les Français sont exaspérés. Ils ont justement leur pouvoir d'achat baisse. Ils se rendent compte qu'on accueille des quantités de personnes. Qui viennent de pays plus pauvres et c'est bien de les accueillir. Sauf qu'à un moment donné, il faut pouvoir les accueillir. Et quand on voit ce qui se passe, je ne sais pas si vous êtes allé dans les quartiers de Paris et même maintenant à Nantes et à Rennes,
venez à Coulaines, je vous invite à déjeuner cet après et on déjeunera ensemble. Vous verrez que c'est une ville tout à fait calme.
Non, mais moi, ma mère, c'est pareil aussi. Et ce que je voulais dire justement, la 5e circonscription, on n'a pas ces problèmes d'immigration.
Ah oui, pourtant on a beaucoup.
Donc c'est pas quelque chose. Attendez, je parle. On n'a pas ces problèmes d'immigration. En revanche, si vous avez été. Attendez, j'ai.
Bah, écoutez, je suis désolé, je suis garant du temps. Oui. On a aussi une antenne, madame Cécile Belle de Gessé. Oui. Je vous donne la parole, vous ne la prenez pas, donc
mais
je suis garant du temps. Vous la prenez après
dîner. Moi, je n'aime pas parler sur d'autres.
Voilà, on arrive au terme du débat. Et voilà, on doit rendre l'antenne. La dernière question que je dois vous poser va être donc très très courte. Je vais vous demander en un mot. Quel est le programme, quel est un point de vos programmes qui vous tient le plus à cœur? En un mot. Et le tirage au sort a désigné pour commencer Christophe Rouillon, candidat socialiste investi par le Nouveau Front Populaire.
Écoutez, remettre des services publics en ville et à la campagne, la santé, l'éducation, voilà, les transports, la mobilité, parce que beaucoup souffrent de la solitude et l'isolement, et ce sera comme ça qu'effectivement on arrivera à ressouder et retisser des liens entre les Français.
Cécile Belle-Degessé, candidate pour Debout la France.
Alors moi, c'est récompenser le travail et favoriser les entreprises qui produisent en France.
Olivier Lacave, suppléant de Karine Fouquet, candidate pour Lutte ouvrière.
Alors, en votant Lutte ouvrière, vous pourrez voter pour votre camp, celui des travailleurs, dimanche, et affirmer que les travailleurs font tout dans la société et qu'ils devraient la diriger.
Pierre Vaugarny, pour le Rassemblement national.
Le retour de la justice, le retour d'un pays apaisé, le retour d'un pays, d'une France qui espère et qui reprend sa marche en avant. Nous, c'est bien nécessaire pour tourner la page de la Macronie et de 30 ans de pouvoir alternatif entre gauche et droite.
Merci de votre participation à ce débat démocratique très animé, comme les autrices et les auditeurs l'auront observé. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera à partir de mardi, de 12h30 à 13h. Chaque jour, il y aura un débat pour les candidats en lice sur les 4 circonscriptions disposant de bureaux de vote au Mans. On commencera avec la première mardi, la deuxième mercredi, la quatrième jeudi, et enfin la cinquième vendredi. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Pour que vive la démocratie, dimanche, votez pour élire votre député.